On va ouvrir la parole de Dieu. Nous allons faire trois lectures pour introduire cette réflexion, ce partage, cette étude. Matthieu chapitre 16 et verset 15. Donc vous l'avez compris, Monsieur Gaud n'étant pas là, j'ai eu la charge. Hier, il m'a dit, voilà Jérémy, tu porteras le message à l'Assemblée et tu les salueras de notre part. Matthieu chapitre 16, verset 15. Jésus pose une question, il dit « Et vous ?» leur dit-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 8. On pourrait commencer à partir du verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et une dernière lecture dans le livre des Psaumes au chapitre 127. Psaume 127 et verset 1er. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Je reprends, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, et si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Amen. Seigneur, tu vois notre cœur à chacun, tu connais nos besoins, tu connais aussi les projets dans lesquels tu veux nous faire grandir, progresser, avancer, et lesquels tu veux nous faire connaître. Nous voulons avoir un cœur disposé ce matin pour connaître ta pensée, pour recevoir ton conseil et pouvoir avancer de la bonne manière. Nous croyons que tu as des projets de paix, avec un avenir de l'espérance et non de malheur. Nous croyons que tu as des choses en réserve pour nous, en abondance, puisque tu as dit que lorsque nous te faisons confiance et que nous t'obéissons, il y a des conséquences merveilleuses pour notre vie et pour la vie aussi de tous ceux qui nous entourent. Nous aimons nos enfants, nous voulons leur salut. Nous aimons nos parents, nos frères, nos sœurs, notre famille, mais aussi ceux qui nous sont proches, Seigneur, et nous voulons leur bonheur. Accorde-nous d'être tellement remplis de ta présence et de ton esprit que cela débordera de nous. Et nous voulons apprendre à connaître ta parole et ton conseil ce matin pour pouvoir le mettre en pratique et que tu puisses approuver nos vies. Merci Seigneur, parce que tu es tout prêt à nous bénir et tu demandes simplement à ce que nous ouvrions notre cœur. Que ton nom soit béni car tu nous donnes l'occasion encore ce matin de nous approcher de toi pour recevoir ta parole et qu'elle puisse porter du fruit en nous car nous aurons une application particulière à la mettre en œuvre. Que ton nom soit béni encore pour ton esprit qui va nous y aider ce matin comme chaque jour de notre vie. À ton nom toute la gloire. Amen. Amen. Trois lectures pour commencer. La première, c'est Jésus qui déclare à Simon-Pierre qu'il va commencer à bâtir quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui n'avait jamais eu lieu avant, qu'il va appeler lui-même l'Église. Vous vous souvenez de ce qu'on a lu ? Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Une promesse extraordinaire. Jésus va dire, je bâtirai mon Église. Qui est d'accord avec quand Jésus parle ? Tout le monde. On est d'accord. Personne est contre. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Mais le deuxième texte nous enseigne ceci et nous l'avons lu. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Pourtant, Jésus dira qu'il est l'architecte, le bâtisseur. Mais pourtant aussi, Paul nous enseigne et nous rappelle que Dieu veut nous utiliser dans cette grande œuvre, dans cette grande, dans ce grand plan de bâtir une église sur la terre à la gloire de son nom et pour le salut des âmes. Vous représentez avec moi ce matin l'assemblée de Sainte-Agne, une portion de la grande église que Jésus se crée sur toute la terre. Il dit que c'est lui qui l'a bâtie, mais que nous sommes ouvriers avec lui. Si nous sommes passés par les eaux du baptême, si nous avons choisi de devenir, accepter de devenir un disciple de Jésus-Christ, c'est pour que nous soyons aussi ouvriers avec Dieu. Vous me suivez jusque-là ? Jésus bâtit son église, mais il le fait au travers de nous, en nous et avec nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et dans le livre des Psaumes, Salomon, qui a bâti le temple de l'Éternel, il va quand même dire ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et je suis certain que vous êtes un peu comme l'équipe pastorale, qu'avec nous, vous avez cette volonté de bâtir une œuvre avec l'Église, avec les frères et sœurs qui viennent à Sainte-Agne, quelque chose qui dure, quelque chose de durable, quelque chose qui aura un impact jusque dans l'éternité. Qui veut une Église juste pour sa génération, et puis peu importe les enfants, peu importe la suite ? Personne. J'espère que vous avez à cœur et vous avez cette vision, eh bien, de l'Église qui était autrefois, puisqu'elle a été avant nous, ça fait quand même plusieurs milliers d'années que ça dure, cette affaire, mais aussi qui est appelée à durer jusqu'à ce que Jésus revienne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me suivez jusque-là ? Vous avez le droit de réagir. Hein ? Simplement, ce que nous bâtissons, ce que nous voulons faire aujourd'hui, nous sommes appelés à le faire de telle manière que Dieu approuve pour que ce ne soit pas fait en vain, c'est-à-dire éphémère, mais que ça dure jusqu'en ayant des conséquences dans l'éternité. Que les âmes, lorsqu'elles rentrent, les âmes nouvelles, lorsqu'elles rentrent dans ce lieu, elles ne soient pas simplement émoustillées, touchées dans leurs émotions, dans leurs sentiments seulement, bien que ça en fasse partie, mais que l'action qui se passe dans les cœurs, le message qui est prêché, l'atmosphère spirituel qui règne dans ce lieu puisse marquer les vies par l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que ça les emmène dans le ciel, dans l'éternité, qu'ils soient véritablement transformés, touchés et sauvés. Vous voulez que vos enfants soient sauvés ou juste qu'ils connaissent une belle doctrine ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voulez qu'ils soient touchés dans leur cœur, qu'ils soient épargnés du mensonge, de toutes sortes de pièges qu'il y a dans le monde ou juste qu'ils savent qui est Jésus, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, et etc. Moi, je crois qu'on veut vraiment qu'ils connaissent Jésus-Christ aujourd'hui, non pas des choses sur Jésus-Christ, mais qu'ils rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Et on veut bâtir d'une manière qui ne soit pas vaine, on veut bâtir d'une manière durable et que Dieu puisse approuver. Pour cela, Dieu nous invite à trois choses, à veiller sur trois choses particulières, et pas que, mais ce soir nous verrons trois choses. La première, pour que nous ne bâtissions pas en vain et pour que Dieu bâtisse avec nous, que ce soit lui-même qui bâtisse, il faut premièrement des plans divins. Vous êtes d'accord avec moi ? On ne fait pas selon nos idées, on fait selon les plans de Dieu. C'est ça qu'il faut chercher. Deuxièmement, il faut des matériaux précieux et nobles. Parce que Dieu ne bâtit pas avec des matériaux, avec du kit, comme on dit, avec des choses qui ne durent pas, mais il bâtit avec des matériaux précieux et nobles. On va le vérifier tout ça. Et troisièmement, Dieu veut des instruments efficaces. Dieu veut qu'on bâtisse avec des instruments efficaces. Il veut bâtir avec des instruments efficaces. Des plans divins, des matériaux précieux et nobles et des instruments efficaces. Lisons ensemble dans Exode chapitre 25 verset 9, nous allons nous appuyer sur ce qui s'est passé lors de la construction du tabernacle, comment est-ce qu'il a été fait, puisque c'est là que Dieu a voulu faire résider son nom un temps. Exode chapitre 25 et verset 9, premièrement là, puis après en chacun de nous, son nom résider. Exode 25, 9. Moïse retranscrit ce que l'Éternel lui a dit. Ça, c'est important de voir. Ce qu'on va lire, ce n'est pas l'idée d'un homme, c'est le plan de Dieu. Il dit ceci, « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles, comme ça vous semblera bon, selon vos idées, comme ça vous plaira. C'est ça qui est marqué? Ah, vous me rassurez. Vous le ferez d'après, quoi? Le modèle que je vais vous montrer. Pas comme vous pensez. Pas comme la raison vous pousse à le faire. Pas comme votre intelligence à vous voudrait qu'on le fasse. À nous voudrait qu'on le fasse. Pas comme on a l'habitude de faire. Pas comme on a appris selon notre expérience, d'après notre métier personnel. Vous savez, aujourd'hui, il y a des pensées qui se propagent et on dit, voilà, lorsqu'on étudie la philosophie humaine, on voit que. Lorsqu'on étudie, etc., toutes sortes de principes humains qui sont bons dans les choses humaines, mais on s'appuie sur ces principes, sur cette science humaine, pour pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas sûr que ça donne quelque chose de durable. Il faut faire d'après un modèle que Dieu nous donne directement. Prenez encore au verset 40 du même chapitre. 25-40, « Regarde et fais d'après ce que tu as appris à l'école. » C'est ça? Non. D'après ce que tu as. Non. D'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. On va y revenir à cette phrase. D'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode 26, 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode 27, verset 8, pardon. Tu le feras creux. Avec des planches, il est parlé de l'arche, tu le feras creux avec des planches, il sera fait tel qui t'est montré sur la montagne. Pardon, c'est l'autel. Il sera fait tel qui t'est montré sur la montagne. On voit et on vérifie, je ne veux pas prendre plus de temps pour trouver tous les textes, et je les ai trouvés, mais je raccourcis la liste. Simplement, déjà, quatre textes qui nous montrent qu'on ne fait pas comme on veut, on fait d'après ce que Dieu veut nous montrer. Vous croyez que si Dieu veut bâtir sa maison, si Dieu veut bâtir une église, il va nous laisser avec des principes humains ou trouver, tâtonner? Non, Dieu veut qu'on connaisse et qu'on comprenne quels sont ses plans à lui. On ne peut pas faire avec des plans humains, avec des bonnes idées, des bons conseils, bien qu'ils soient bons à l'évidence, aux yeux humains. Mais Dieu veut faire selon ce qu'il nous dit. Des fois, c'est impressionnant de voir que la raison humaine nous dit de faire A, mais que Dieu donne du discernement à quelqu'un et qu'on fait B. Et le temps nous montre qu'il fallait faire cette deuxième chose parce que c'est Dieu qui avait inspiré un homme. Vous savez, c'est facile. Paul avait des projets, Paul avait des plans. Paul avait une carte, il avait peut-être fait un trajet, je ne sais pas, en tout cas il avait une idée du trajet qu'il devait emprunter. Puis d'un coup, Dieu lui donne une vision, un Macédonien qui lui dit « sauve-nous ». Et il va changer ses projets, il va faire d'après ce que Dieu lui dit et ça va être approuvé. Demandez à M. Bordeneuve en aparté de vous raconter comment il a été conduit au Niger et comment Dieu a ouvert les portes. Ça paraissait fou peut-être, mais c'est là que Dieu le voulait. Est-ce que c'était bien? Combien il y a d'églises ouvertes aujourd'hui? En combien de temps? Bon, si 7 ans, 41 églises, rien que ça. Et c'est pas le frère qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait, mais il était ouvrier avec Dieu. Je vous vexe pas en disant ça, je sais que vous êtes dans cet état d'esprit. Mais quand Dieu conduit, quand Dieu montre un modèle et qu'on s'applique à ce que Dieu dit, c'est béni. Qui voudrait que son foyer ne soit pas bâti en vain, que son mariage ne soit pas contracté en vain, mais qu'il dure dans le temps? Bon, je sais que vous êtes volontaire. Vous savez, dernièrement, il y a quelques années, on a vu dans un pays, un autre pays, des personnes qui depuis des années avaient construit une belle église tout en cristal, etc., qui a coûté des millions de dollars. Et ils voulaient faire à la gloire de Dieu. Et c'était bon. On a l'exemple de toutes sortes de cathédrales, de toutes sortes de choses qui ont été faites en France aussi, qui sont magnifiques. Vous êtes d'accord avec moi qu'on se demande comment ils ont fait? Ils n'avaient pas les grues. Ils n'avaient pas les tracteurs, les choses comme aujourd'hui pour transporter toutes les pierres, tout ça. Ils ont fait des choses incroyables. Et franchement, chapeau. Vous êtes d'accord avec moi? J'aurais aimé voir comment ils ont fait, hein. Rien à la main, tout, avec les bœufs, avec les animaux pour tirer, tout ça, etc. Ils allaient couper le bois à la scie, il n'y avait pas de tronçonneuse, il n'y avait pas tout ça. Ils ont tout fait à la main, de tout leur cœur. Malheureusement, certaines fois, ça a été fait avec des mensonges, sur la base de mensonges. Si vous faites ça, vous mériterez le ciel. Et vous avez vu, ça peut être très très sage aux yeux humains. Pour Dieu, il faut la plus belle église physique, matérielle. Et en soi, le tabernacle a été fait de matériaux nobles. Mais si derrière, ce n'est pas les plans de Dieu, les plans divins, ça va à la catastrophe. Et cette église dont je parlais, tout en cristal, elle a été vendue à une dénomination qui ne prêche plus du tout l'évangile, la parole de Dieu, pour rembourser les dettes qu'avaient contractées les premiers qui l'avaient construit. Était-ce de Dieu ? À chacun d'en juger. Vous savez, il est dit « fais d'après le modèle que tu as reçu sur la montagne ». Le premier moyen de comprendre les plans de Dieu, c'est de méditer la parole de Dieu. Les plans divins, le premier moyen, ils sont là. Les plans divins, ils sont là. Et tout ce que Dieu pourrait montrer par une révélation, une prophétie, tout ce qui peut être révélé doit être conforme à la parole de Dieu. Elle est le fil à plomb pour être sûr qu'on ne dévie pas, qu'on ne fait pas de contrefaçons ou de mauvaises choses. Vous savez, hier je regardais une émission, il y avait des gens qui pleuraient parce que leur maison avait été faite par un entrepreneur, mais quelqu'un qui n'était pas du tout qualifié. Et ils étaient arnaqués, comme on dit. Ils avaient une maison qu'il fallait tout détruire et tout recommencer. Un simple fil à plomb mis sur le côté de la maison montrait qu'il y avait un décalage de plusieurs centimètres. Et un mur qui est décalé comme ça, il risque quoi ? De s'effondrer. Et on ne veut pas bâtir, et puis après voir la chose s'effondrer, devoir la raser pour recommencer, on veut bâtir une bonne fois pour toutes, de la bonne manière. Le premier plan, il est décrit dans la parole de Dieu. D'après le modèle que tu as reçu sur la montagne, il y a un sermon qui a été donné sur une montagne. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça ? Beaucoup d'entre nous, moi le premier, je me suis posé la question, mais quoi faire une fois qu'on est chrétien ? Comment diriger ma vie ? Quoi faire ? Quel est le plan de Dieu pour ma vie ? Mais le premier plan que Jésus a donné, la première chose sur laquelle on peut s'appuyer et qu'on doit découvrir, c'est le sermon sur la montagne. 3 chapitres, 5, 6, 7 de l'évangile de Matthieu. Et vous avez un condensé d'enseignements, de conduite pour guider votre vie. Et toutes les épîtres vont reprendre ce que Jésus a dit, puisqu'on n'invente rien. Une des premières études que M. Ollé enseigne, c'est l'épître de Jacques. Et la première chose que vous rappelez, c'est regarder que dans l'épître de Jacques, Jacques n'a rien inventé. Il a que recopié ce que Jésus a dit et il a mis en situation pratique. Voilà. Mais tout est condensé. Déjà, la base, elle est là. Lisez le sermon sur la montagne et vous avez déjà beaucoup de travail. J'ai déjà beaucoup de travail. Parce que vu ce qui est marqué, on croyait savoir, on croyait connaître, on croyait bien construire. Et d'un coup, on dit « Ouh là là !» Mes critères ne sont pas ceux de Jésus. Quelquefois, on n'a pas les mêmes critères de valeur, vous voyez ? Je croyais que je construisais bien, et finalement, je réalise que j'ai quelque chose à ajuster, à transformer, à abandonner. Je veux m'appliquer à ce que je dis. Sermon sur la montagne. Deuxième chose, la montagne nous parle d'intimité avec Dieu. La base, c'est la parole de Dieu. Tout est là, le fil à plomb est là. Mais on a besoin du Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Il est le professeur que Dieu nous donne pour nous instruire, pour nous révéler, pour nous faire comprendre la pensée de Dieu et pour nous expliquer les Saintes Écritures et nous rappeler ce que nous avons déjà médité et entendu. C'est ça qu'il fait le Saint-Esprit et ce qu'il a entendu auprès du Père aussi. Il y a le sermon sur la montagne, mais il y a aussi besoin, c'est bien de connaître la Bible par cœur, c'est bien de connaître le sermon sur la montagne par cœur, tous les principes, mais il y a besoin d'une intimité personnelle avec Dieu et avec le Seigneur Jésus-Christ par son esprit. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Vous le savez toutes ces choses, c'est très simple ce matin. Mais combien il est important de nous rappeler qu'il nous faut lire la Bible tous les jours. C'est difficile de dire ça parce qu'on se dit presque qu'on devient légaliste, on donne une loi, une règle. Mais ce n'est pas une loi, une règle. Heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Et dans le sermon de l'Éternel, Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir un seul iota de la loi ». Je suis venu l'accomplir, puisqu'il y a une partie qui parlait de son rôle, mais aussi à chacun, il est le souci de pouvoir la mettre en pratique et d'enseigner à faire de même. Car celui qui enseigne à abandonner, à retirer une partie de la loi de Dieu, eh bien qu'il soit anathème. Nous ne voulons pas être maudits, nous voulons être bénis. Alors à nous de mettre en pratique la parole de Dieu et de chercher une intimité avec lui pour qu'on puisse vraiment être sûr, sonde mon cœur, connais mes pensées. Être sûr qu'on est sur la bonne voie. Et ce n'est pas juste bien de connaître par cœur la Bible, c'est bien de la comprendre, d'être sûr de la comprendre parce que j'ai une intimité avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu peut me parler. Et des fois, je crois bien faire et je m'égare, et le Saint-Esprit parle à mon cœur. Comme David qui allait tuer Saül et qui a senti dans son cœur, ça battait, il ne faut pas toucher à loin de l'Éternel. Même s'il n'est pas correct en ce moment, c'est loin de l'Éternel, je n'y touche pas, c'est Dieu qui s'occupera. Moi, je prie pour que Dieu règle l'affaire, je fais tout ce que je peux pour que la paix s'installe, mais après, à chacun fait ses choix. Et David, il a tout fait pour se réconcilier avec Saül. Saül ne l'a pas voulu, il n'a pas cessé de le poursuivre pour le tuer. Et c'est Dieu qui a dû s'occuper de lui. Et c'est lui-même qui s'est supprimé la vie. Parce que Dieu ne pousse jamais quelqu'un à se suicider. Il faut des plans divins. Il faut faire la volonté et regarder au but divin. Non pas ma gloire, mais sa gloire. Tes buts, tes plans, tes projets et ta manière de faire. Deuxième chose, il faut des matériaux précieux et nobles. Je vous le lis. Exode chapitre 25, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, du cuivre ou de l'airain selon les traductions, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu va pas dire, voilà, écoutez, prenez ce que vous avez sous la main. Il va donner des instructions claires. Il va dire, je veux que vous bâtissiez en matériaux qui durent, précieux, en matériaux rares. Parce que des peaux de dauphin dans le désert, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et Dieu a demandé des choses précieuses et rares. Pour nous, le poil de chèvre, ça ne vaut rien. Vous voyez ? Pour nous, une peau de quoi que ce soit, ça ne vaut rien. On n'en a pas besoin aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était les matériaux les plus rares et les plus précieux, les plus chers. Dieu n'a jamais dit « faites les choses n'importe comment, avec n'importe quoi ». Il dit « faites-le avec des choses précieuses, chères, rares. Je veux que ce soit des choses qui durent. » Parce que tous les matériaux utilisés, c'était des matériaux qui avaient des propriétés particulières. Vous savez que la peau de dauphin est étudiée aujourd'hui par les scientifiques pour sa pénétration, ses facultés de pénétration et d'isolement dans l'eau. La peau de dauphin a une particularité tellement forte et tellement unique que les scientifiques veulent imiter, arriver à faire quelque chose de synthétique et qui copie la peau de dauphin, parce que dans l'eau, il n'y a rien de mieux pour la pénétration et l'avancée. Vous avez vu les dauphins à quelle vitesse ils vont ? C'est aussi rapide que certains, c'est plus rapide que certains matériaux ou choses que l'on fabrique nous-mêmes. Et ils voudraient, ils savent qu'en imitant la peau de dauphin, ils arriveront à des performances qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui. Et la peau de dauphin, elle a cette faculté aussi d'isoler l'intérieur du dauphin, donc le corps, de l'extérieur, et s'il y a des courants forts, peu importe, ça n'impacte pas l'intérieur. S'il y a toutes sortes de froid, de chaud, le dauphin est isolé, il est bien gardé. Oui, il a de la graisse, mais il y a aussi cette peau qui est épaisse et qui a une faculté particulière. Et c'est un frère d'Antibes, qui est quand même directeur au CNRS de Sophia Antipolis, qui expliquait que cette matière a des propriétés tellement exceptionnelles qu'encore aujourd'hui on cherche à découvrir comment c'est fait pour pouvoir l'imiter et l'approprier aux choses qu'on a besoin de la terre, entre autres les militaires, puisqu'on sait que la plupart des choses passent par eux. Le financement dans ce monde passe d'abord la plupart du temps par là. Et c'est incroyable comme Dieu a prévu cette peau de dauphin qui est là, comme parler d'une isolation entre l'extérieur du temple et l'intérieur du temple. Il n'y a rien de commun entre en dehors de la présence de Dieu et dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de commun entre en dehors de la volonté de Dieu et dans la volonté de Dieu. Vous savez que dans le temple, il n'y avait aucune lumière extérieure qui rentrait. C'était tellement opaque que la lumière extérieure n'avait rien à faire à l'intérieur. Et il n'y avait que la lumière du chandelier qui venait pour éclairer l'intérieur du temple. Et le chandelier était fait d'or battu, d'une seule pièce, martelé. Des matériaux nobles et précieux. Un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12, il est dit « Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, c'est la suite de ce qu'on a lu, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. » Vous avez vu que le feu, c'est pas toujours parler de bonnes choses avec le feu, d'ailleurs pas souvent. Mais l'or au feu, qu'est-ce qu'il fait ? Il est épuré. Les mauvaises choses, elles remontent. L'argent, pareil. Les pierres précieuses, le feu, ça ne change rien. Le bois, par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle. Ça ne donne que des cendres. Une maison en bois, vous connaissez l'histoire des trois petits cochons. Le bois, ça ne tient pas. Le foin, c'est pareil. Le chaume, c'est pareil. L'œuvre de chacun sera manifestée. Vous le savez. L'œuvre de chacun sera manifestée et selon la manière dont on bâtit dans l'œuvre de Dieu, eh bien, ce sera révélé à la fin et on recevra ou pas une récompense. Vous aimez cette affaire de récompense? C'est un peu bizarre, on ne sait pas ce qu'il y aura, on ne sait pas comment ça sera. Il y a quelques petits indices, mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Je ne veux pas perdre les récompenses. Et au-delà des récompenses, je ne veux pas perdre le bénéfice de l'œuvre de Dieu qu'il veut faire, parce que je veux que mes enfants soient sauvés. J'ai 3 enfants, bientôt 4, et je ne veux pas que mes enfants soient perdus. Je veux qu'ils soient sauvés. 4 garçons. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. De quoi nous parle ces matières précieuses, ces choses précieuses? Dans 2 Timothée, prenez-le avec moi, 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, or et argent, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. On veut être des vases d'honneur. Je ne sais pas vous, mais je voudrais tellement. Vous savez, tous les jours, on se place devant Dieu. Tous les jours, on prend un moment. En tout cas, tous les jours, on pense à Dieu. Si vous êtes sauvés, tous les jours, vous pensez à Dieu. Et quand on pense à lui, quand on prend un moment de prière, quand on prend un moment de méditation, qu'on passe un moment devant sa face, ou qu'une idée nous traverse sur le Seigneur, qu'un chant nous revient, etc. S'il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans nos vies, ça nous revient à la figure. Parce que le diable, il ne veut surtout pas qu'on pense à Dieu. Il ne veut surtout pas qu'on se sente à l'aise dans la présence de Dieu. Surtout pas qu'on soit au clair avec Dieu. Il veut nous rappeler nos fautes. Et si je n'ai pas le courage de dire « Seigneur, oui », c'est vrai, il m'est arrivé ça, j'ai fait ça, je te demande pardon. J'abandonne, même si j'aime cette chose, je l'abandonne parce que je sais qu'elle t'attriste. J'aime cette chose, mais je sais qu'elle m'empêche de te servir. J'aime cette chose, ça me plaît, puis ça me distrait, ça me repose, Seigneur. Mais je sais que ça m'empêche d'être fidèle avec toi. Si on n'a pas cette attitude de se mettre au clair, de se préserver de ces choses que Dieu aussi nous rappelle par son esprit parfois, eh bien, on va être freiné, on va passer à côté de ces moments bénis avec Dieu. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à passer du temps devant le Seigneur parce qu'il nous revient toujours nos fautes, nos iniquités, nos travers, nos défauts, nos mauvaises actions. Et du coup, au lieu d'avoir le courage de régler ça maintenant, de suite, avec le Seigneur, on dit « Oh, je ne suis pas digne, je ne mérite pas, ou je ne suis pas propre. Là, je ne suis pas propre, je ne peux pas prier parce que Dieu, de toute façon, il ne peut pas m'écouter. » Mais non ! Tout de suite, réglons-le, disons « Mais Seigneur, c'est vrai !» J'ai du temps, mais au lieu de me dire « je ne suis pas digne, je ne suis pas propre », eh bien oui, eh bien, allons devant le Seigneur. « Seigneur, je te demande pardon. Tu vois ce qui me tient. Tu vois ce vice, cette passion, tu vois ce travers, tu vois ce péché, cette colère que j'ai eue, cette animosité, cette amertume que j'ai contre quelqu'un, cette blessure que j'ai dans mon cœur. Je ne veux pas la laisser me faire perdre du temps, je veux la régler tout de suite, Seigneur, immédiatement. Parce que je ne veux pas être un vase inutile, je ne veux pas être un vase vil, je veux être un vase d'honneur dans ta maison. Je ne veux pas être sauvé juste au travers du feu. Je veux être plein de récompenses, une couronne tellement lourde que ma tête, elle penchera comme ça dans le ciel. Je ne sais pas, mais je veux vraiment, Seigneur, que là-haut soit la fête parce que je n'aurai pas honte. Tout sera réglé sur la terre. Je veux être vraiment au clair avec toi. Je veux être un vase pur, un vase d'or, un vase d'argent. De quoi nous parlent les matières précieuses, les matières nobles? Elles nous parlent de l'attitude du cœur. Elles nous parlent de la manière dont j'agis, dont je prends au sérieux les plans divins, la manière dont je prends au sérieux les conseils divins. C'est une attitude de cœur, c'est un état d'esprit. Soit je suis d'or, soit je suis de chaume. Tout dépend comment je vais prendre à cœur l'œuvre de Dieu. Ça nous parle de loyauté. La loyauté, tiens. Est-ce qu'on a de la loyauté les uns envers les autres? Vous savez qu'il est toute la parole de Dieu nous invite à être loyal les uns envers les autres. Comment? Eh bien, en étant vrai. Si je suis pas d'accord, je le dis sans animosité, sans chercher à te convaincre et à te faire changer. Je te le dis simplement pour qu'on puisse en discuter. Et si on n'arrive pas à s'entendre, on va pas se disputer. On va faire quoi? Eh bien, on va prier pour que Dieu nous éclaire. Et on ne va pas se critiquer derrière, raconter à tout le monde qu'on n'est pas d'accord, raconter à tout le monde, tu sais, il se passe ci, il se passe ça, et puis détruire l'autre parce que lui, il n'y avait pas pensé. Mais vous savez combien je suis blessé ? Combien je suis blessé parce que des fois, on me dit, il s'est passé ça là-bas. Ah bon ? Et ça me blesse. Et après tout, est-ce que j'avais besoin de le savoir ? Et combien j'ai blessé ? Parce que quelquefois, des choses qui se passaient devant Dieu et dans une affaire, dans une famille, par orgueil peut-être pour montrer que je suis meilleur, je ne sais pas, dire à d'autres, mais tiens, vous savez, il s'est passé ci, il s'est passé ça. À quoi ça sert ? Sinon à être un instrument du diable pour détruire. Si par contre on partage ça pour construire, pour prier les uns pour les autres, avec une humilité devant Dieu pour pouvoir bâtir et améliorer, alléluia ! Mais c'est juste pour se comparer. C'est juste pour raconter les ragots, vous savez, hein, les tuyaux. J'ai un tuyau, j'ai un ragot. J'ai un scoop. Ça, c'est le monde qui fait ça. Mais nous, dans l'Église, on veut bâtir en or, en argent. On ne veut pas qu'il y ait tout ça. L'état d'esprit, loyauté, vérité et humilité. Et on pourrait trouver toute une liste dans la parole de Dieu qui nous parle de l'état de cœur qu'on doit avoir lorsqu'on est au Seigneur pour être des vases d'honneur. Que Dieu me fasse grandir et m'aide à m'améliorer, à me changer, à me perfectionner. Ça nous parle aussi de l'obéissance. L'obéissance, je reprends certains textes, je vais vous les lire tout simplement, mais pourquoi Dieu a béni ceux qui ont construit l'arche ? Pourquoi Dieu a approuvé la construction lorsqu'elle aurait été finie ? Regardez, il est dit, Exode 39.1, « Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en croix masie, on fit des vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, et on fit des vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. » Verset 5. « La ceinture était d'un même travail que l'éphode et fixée sur lui, elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisie, et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. » Verset 7. La fin. « Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. » Verset 21. « Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. » Verset 26. « Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. » 29. « Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. » 31. « Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. » Et après, c'est presque tous les deux versets, hein, vous avez vu. 32. « Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, ils firent ainsi. » 42. « En se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait ordonnés à Moïse. » Et verset 43, « Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait été fait comme l'Éternel l'avait ordonné, il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. » Parce que quand on obéit, on est béni. Obéir, c'est être béni. C'est pas mérité. C'est simplement avoir les conséquences de ce que nous avons pris au sérieux. Verset 16, « Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. » Verset 19 du chapitre suivant. Il étendit la tente sur le tabernacle, il mit la couverture, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 21, pareil. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 23, comme l'Éternel l'avait ordonné. Verset 25, même chose. Verset 27, même chose. Verset 29, tous les deux versets, c'est pareil. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Et verset 32, lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils le lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Si le Saint-Esprit a trouvé bon de répéter, je crois que ça fait 18 fois là, rien que ce qu'on a lu, à 18 reprises, la même phrase presque, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous savez que c'est l'Esprit de Dieu qui a quand même inspiré les Écritures. La moitié, que l'Ancien Testament, non ? Que les Évangiles. Mais vous savez qu'en ce moment, des grands théologiens disent « la parole est dans la Bible ». C'est cru par plein de gens. La parole de Dieu, elle est dans la Bible, elle est contenue dans la Bible. Mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Certains grands théologiens en arrivent là. Et nous savons que du début, la première lettre jusqu'à la dernière, c'est inspiré de Dieu dans son texte original, dans sa langue originale. Nous avons une traduction, il ne faut pas être offusqué si des fois, au lieu d'un mot, on en a mis un autre, du moment que c'est le même sens. Et si on s'est trompé, avec humilité, on médite la parole de Dieu, pour pouvoir eh bien, savoir ce que Dieu dit vraiment, puisque M. Ollé nous l'enseigne, et M. Ollé nous aide à cela. Si le Saint-Esprit a trouvé bon, dans plusieurs textes, dans le Lévitique, dans la loi, dans toutes sortes de choses, de répéter les mêmes choses, au mot près, et plus d'une dizaine de fois, c'est qu'il veut qu'on retienne, qu'il y a une bénédiction, mais qu'elle vient d'une obéissance. Des matériaux nobles et précieux, c'est des hommes, des femmes qui font les choses, des œuvres qui sont faites dans l'humilité, dans la vérité, dans la loyauté, mais selon la parole de Dieu, avec obéissance. Et troisièmement, des instruments efficaces. C'est qui les instruments ? C'est nous. C'est vous. C'est moi. Dieu n'utilisera jamais un ange pour faire ce qu'il nous appelle à faire. Dieu n'utilisera jamais que le Saint-Esprit pour tout faire. Dieu, il a choisi d'utiliser des hommes et des femmes qu'il aura d'abord touchés, transformés, sauvés, pour pouvoir faire son œuvre. Instrument efficace, parce que débarrassés de tous leurs défauts. Instrument efficace, parce qu'ils ont de la valeur. Vous savez combien ça coûte, une bonne perceuse ? Je ne parle pas d'une perceuse. Il y en a à 7 euros. J'ai vu une perceuse à 7 euros, rechargeable, vous savez. Mais vous l'utilisez une fois, le mois d'après, quand vous revenez pour bricoler, elle ne marche plus. C'est encore 7 euros. Ping. Mais une bonne perceuse, ça coûte cher. Plusieurs centaines d'euros. Je m'en suis offert une. Et il y passe l'anniversaire, le Noël et tout ce que vous voulez, pendant des années. Parce que ça coûte cher. Mais parce qu'on veut que ça marche. Parce que sur le chantier, quand on veut bâtir une maison, je suis allé visiter quelqu'un dernièrement, il m'a dit, si tu savais, sans cet instrument, le temps que j'aurais mis pour faire l'isolation, parce que c'était un pistolet à clous, ça fait presque peine, comment on dit ? C'est ça ? Pistolet à clous, à peu près, hein ? Pour pouvoir fixer les choses, au lieu de percer, mettre une cheville, mettre une vis, non, viens, pistolet à clous, paf, c'est fait. Merci Seigneur pour l'intelligence que Dieu donne aux hommes, les inventeurs, les ingénieurs. Ça va beaucoup plus vite. Quand on a du bon matériel, ça va plus vite, c'est plus efficace et ça dure. Et on fait du meilleur travail. J'ai acheté une scie circulaire. C'était une révolution pour moi. La scie, j'étais là. Et heureusement, je bricole pas souvent. Mais quand on va faire quelque chose et qu'on veut aller un peu plus vite, gagner du temps, c'est bien d'avoir les bons outils. Et j'ai réalisé qu'il y avait une différence entre une scie circulaire à 20 euros et une scie circulaire à plusieurs centaines d'euros. Je crois que c'était juste la marque, moi. Hein. Et j'ai vérifié que non. Il fait bon avoir les bons outils. Et Dieu, il veut les meilleurs outils possibles. Il utilise des outils efficaces. Pour faire une œuvre efficace, pour faire une œuvre divine, une œuvre aussi noble et aussi pure que celle de Dieu, et aussi grande, il faut des instruments efficaces. Heureusement, Dieu n'appelle pas selon nos capacités. Mais lorsqu'il appelle, il rend capable. Vous êtes d'accord avec moi ? On le vérifie ? La même affaire. Exode 31, versets 1 à 11. Comment être rendu efficace ? Comment être rendu capable de faire l'œuvre de Dieu ? Parce que je suis sûr que vous êtes comme moi, vous ne vous sentez pas capable ni digne de faire l'œuvre de Dieu. Et quand Dieu vous appelle, vous êtes tout surpris. Moi ? C'est comme Samuel, hein ? Vous ne comprenez pas pourquoi on vous appelle. Exode 31, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit : Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de plein de connaissances matérielles, d'expériences, non. Je l'ai appelé parce que c'est le meilleur de toute la terre, non. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur à Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que je t'ai donnés. Vous avez vu ? Dieu avait prévu dans le peuple de Dieu des gens qui, durant leur vie, allaient être remplis du Saint-Esprit, remplis aussi de toutes sortes de connaissances et d'intelligence spirituelle pour faire une œuvre spirituelle. Et ça, vous savez, l'intelligence matérielle et l'intelligence spirituelle, on peut la confondre. Hein. Mais il y a une différence entre celui qui est habile de ses mains mais qui ne connaît pas Dieu et qui ne veut pas être rempli du Saint-Esprit, et celui qui, par contre, ne connaît pas grand-chose, mais qui, parce qu'il a le Saint-Esprit, il va apprendre et il va arriver à faire quelque chose que d'autres auraient mis plus de temps. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est le meilleur de tous. Hein ? Au passage, il nous dépasse tous. Et lorsque c'est lui notre professeur, il nous rend capables. À nous de chercher à être remplis du Saint-Esprit. C'est quoi un instrument efficace ? C'est un instrument rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas dit, soyez quelquefois remplis du Saint-Esprit, soyez visités par l'Esprit de Dieu. Il est conseillé, exhorté, encouragé, il est ordonné, je crois, à chacun d'être habité par l'Esprit de Dieu et d'être continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit. Toujours en train, parce qu'on est toujours sous la source, sous la fontaine, plongé même dans le bassin, je ne sais pas comment imaginer ça, mais dans le fleuve. On est toujours près de Dieu dans une intimité pour qu'il puisse déverser en nous de son esprit. L'huile que j'ai aujourd'hui ne me suffira peut-être pas pour demain ou pour après-demain. Chaque jour suffit sa peine, ça veut dire que chaque jour je dois aussi me tenir devant Dieu pour recevoir la pensée de Dieu, le secours de Dieu, l'esprit de Dieu, pour être prêt quand l'épreuve arrivera ou pour être prêt quand le travail se présentera devant moi. Le conseil que je donne à ceux qui veulent rentrer dans le ministère, c'est un conseil qu'on m'a donné aussi, c'est médite la parole de Dieu aujourd'hui. Prépare-toi, connais la parole de Dieu aujourd'hui. N'attends pas de méditer la parole, de vraiment faire même des petits messages, même si tu ne les prêches jamais. N'attends pas, déjà aujourd'hui, s'il y a un appel sur votre vie, commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique ce que Dieu vous appelle à faire. Et Dieu ouvrira les portes de lui-même si c'est lui qui vous appelle. Parce que je crois que quand Dieu a un projet, il a un budget et il a des portes qu'il ouvre, il a toutes sortes de choses qu'il fait. Et ne serait-ce que pour notre bien personnel, méditons la parole de Dieu tous les jours. Je conclue avec cela. Le résultat est celui-ci, verset 40, chapitre 40, verset 34. « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée était dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Le résultat de cette obéissance, de cette efficacité et de ces plans qui avaient été reçus et mis en pratique, c'est quoi ? C'est que la gloire de Dieu se manifeste dans le peuple, au milieu du peuple de Dieu. Dieu habitait au milieu de son peuple. La référence, c'est Exode 40, versets 34 à 38. Merci. Exode 40, 34 à 38. Vous avez vu un peu les conséquences d'une obéissance simple, pas facile toujours, hein, mais de bon cœur, d'une application de tout cela, c'est que la gloire se manifeste. Qui veut que la gloire se manifeste parmi nous ? Qui a mal dans son corps et voudrait être guéri ? Qui a peur des fois parce qu'il est dans une circonstance où il se demande comment ça va se passer, mais veut être rassuré par la présence du bon berger et le fait qu'il est manifeste ? C'est bien de le savoir. Et c'est vrai que dans Timothée, il est dit, je sais, dans 1 Jean, il est dit, oui, je sais que je sais, je sais. C'est bien de savoir. Mais c'est encore mieux de vivre, c'est pas vrai? Et la plus grande connaissance, si elle n'était pas vécue, à quoi servirait-elle? Connaître Dieu. La vie éternelle, c'est de le connaître. C'est pas de savoir des choses. C'est de le vivre. Mais ça passe d'abord par une connaissance. Dieu se révèle, il se fait connaître, et après on peut vivre ce qu'on a connu de lui, ce qu'on a appris. Puissions-nous être comme cette église, ce temple en tout cas, qui a bien été bâti, et que l'Assemblée de Sainte-Anne puisse être bien bâtie, sérieusement, pour que Dieu puisse emmener sa gloire dans les rassemblements que nous avons en son nom et autour de lui. Je termine avec cette question. Ces principes, ils ne s'appliquent que à la construction de l'église Ou est-ce qu'il ne s'applique pas à la construction d'un foyer, à la construction d'une entreprise, à la construction d'un mariage et de toutes sortes de choses? Ces principes, c'est des principes pour toute notre vie, pour que la volonté de Dieu se fasse dans toute notre vie et pour que la bénédiction de Dieu se déverse dans tous les domaines de notre vie. Si vous voulez qu'un foyer dure, il faut le faire selon les plans divins. Il y a des conseils que le monde rejette aujourd'hui, l'adultère, toutes sortes de choses, la fornication, etc. Si vous voulez que le foyer soit béni, suivez les plans de Dieu. Il faut des matériaux nobles dans le couple, dans le foyer. Il faut qu'il y ait une attitude noble. C'est même quand on lit des textes, même quand les nobles se disputaient avec quelqu'un d'autre, c'était classe. Vous avez vu ? C'était pas avec des mots bas, rabaissants et tout. C'était vraiment avec... Ils avaient la manière, vous voyez. Nous, on ne veut pas être comme ça, dupes ou incrédules. Mais on veut par contre se respecter les uns les autres. On veut vraiment comprendre qu'on fait partie d'une noblesse céleste. Et on est appelé à des choses précieuses. Et troisièmement, être efficace. Seigneur, je suis un mari, mais je veux être un mari efficace. Montre-moi comment faire. Aide-moi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Que tous les maris soient remplis du Saint-Esprit, moi le premier. Les épouses, aide-moi être une épouse selon ce que tu me demandes de faire dans mon foyer. Je vais être rempli du Saint-Esprit, etc., etc. Vous l'avez compris ? Que Dieu puisse nous bénir à chacun. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole n'est pas valable que pour il y a 2000 ans. Ce n'est pas un livre éteint, ce n'est pas un langage, Seigneur, éteint aujourd'hui. C'est un langage spirituel, c'est-à-dire un langage éternel. Et tes conseils ne sont pas pour un jour, mais ils sont pour toujours. Ta vérité, Seigneur, n'est pas éphémère. Ta vérité, Seigneur, c'est la parole et elle dure encore. Elle est de bons conseils encore aujourd'hui. Merci, mon Dieu, de nous aider à la saisir, à la croire, à la vivre, à la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à vivre ces trois choses. Te laisser nous conduire par tes plans à toi. Nous les approprier, les faire nôtres, Seigneur, et nous conformer à eux. Tu as dit aussi, Seigneur, que tu nous demandes d'avoir une attitude, de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, toutes sortes de conseils que nous allons nous appliquer à chercher dans ta parole pour les mettre encore en pratique. Et Seigneur, tu nous demandes, c'est vrai, d'être efficace. Nous voulons être remplis de ta puissance. Tu as dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, lorsqu'il viendra sur vous. Nous voulons être efficaces, remplis de force, de puissance, d'assurance et d'efficacité dans notre vie. Parce que nous serons remplis de toi, remplis de ton Saint-Esprit. Oui, baptise dans le Saint-Esprit, renouvelle, remplis-nous toujours et constamment. Aide-nous à chercher ta présence, chercher une intimité avec toi constante, et que ta gloire éclate au milieu de nous. Amen.